Bonjour et bienvenue sur Bac FM. Vous êtes en compagnie de Marion Jamet et
Zoé Georgeon Averader.
Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de sensibilisation aux risques routiers organisée au sein du lycée, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur de Balenguen, le directeur de cabinet du préfet de la Nièvre. Dans cette première partie d'émission, j'aimerais revenir donc sur votre métier. Donc tout d'abord, Monsieur de Balenguen, comment allez-vous ?
Bonjour, merci à vous deux de m'accueillir sur la radio Bac FM. Écoutez, je vais très bien et je suis très heureux de cette invitation de Bac FM et de cette invitation de lycéens qui s'investissent et sur la sécurité routière et dans ce projet radiophonique. Donc merci de votre invitation.
Alors pouvez-vous nous exposer votre parcours scolaire jusqu'aux fonctions que vous occupez actuellement ?
Alors j'ai un parcours assez atypique qui ne mène pas nécessairement à être directeur de cabinet de préfet, puisque pour ma part je suis ingénieur financier de formation. Je suis passé par l'Institut de haute finance de la Sorbonne, puis par l'École centrale à Paris, donc je suis ingénieur. Et j'ai commencé ma carrière dans le secteur privé, puisque j'ai été directeur chez KPMG International en audit et commissariat aux comptes, avant de rejoindre le service de l'État. Et j'ai eu la grande chance, depuis que je suis au service de l'État, de servir sur des territoires très différents, puisque j'ai pu servir dans le département de la Vienne, j'ai pu servir dans les Pyrénées, maintenant je sers dans la Nièvre, et puis sur des missions variées, que ce soit auprès d'un préfet de région, que ce soit sur des missions très liées à la sécurité civile ou à la sécurité intérieure, et maintenant comme directeur de cabinet de préfet.
Bah très bien. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et quelles sont vos missions ?
Alors, le préfet a deux grands collaborateurs. Il a un secrétaire général auprès de lui et un directeur de cabinet. Le métier du secrétaire général, c'est de piloter les politiques publiques dans le département et de diriger les services de la préfecture et d'en assurer aussi les moyens. Le rôle du directeur de cabinet, lui, est différent. Le directeur de cabinet est en charge de la coordination des forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, services de renseignement, mais aussi des services de secours, du SDIS. Et le directeur de cabinet du préfet, il est également en charge de la gestion de crise. Donc c'est lui qui pilote la gestion de crise, quelle qu'elle soit, que ce soit une crise de sécurité civile liée à un risque naturel, liée à un grave accident ou à une crise de sécurité intérieure. Et le directeur de cabinet du préfet, il est également en charge de la représentation de l'État, c'est-à-dire de la communication de l'ensemble des services de l'État qui sont dans le département sous l'autorité du préfet. Et puis il est en charge également mais de missions plus politiques, notamment l'accueil de l'ensemble des membres du gouvernement lorsqu'ils sont en déplacement dans le département. Donc le directeur de cabinet du préfet est l'interlocuteur permanent de l'ensemble des cabinets ministériels.
Et quels moyens pouvez-vous mettre en place justement pour accomplir ces missions ?
Alors ça, c'est toute la puissance de l'État, puisque le préfet et par voie de conséquence son directeur de cabinet dispose de l'ensemble des moyens de l'État pour mettre en œuvre les réponses adaptées et nécessaires aux politiques publiques qui sont déployées sur le territoire. Et donc dans le cadre de la politique publique qui vous intéresse, celle de la sécurité routière, eh bien naturellement on dispose de l'ensemble des leviers, que ce soit les leviers de prévention, les leviers de sensibilisation, mais aussi les leviers de répression. Et donc l'ensemble des services concourent à cette mission sous notre autorité, que ce soit les services de la DDT, en charge là plutôt des opérations de prévention, de sensibilisation, mais aussi d'observation, d'analyse statistique, que ce soit également, naturellement, les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, qui sont sur l'ensemble de la politique de sécurité routière, pas seulement sur l'aspect répression, mais également sur l'aspect prévention, sur l'aspect accompagnement, sur l'aspect sensibilisation, sur l'aspect éducation routière, mais également sur l'aspect contrôle et répression lorsque c'est nécessaire.
Pouvez-vous nous expliquer quel lien du coup vous entretenez avec les services juridiques et judiciaires ?
Alors, dans notre pays, ce sont deux chaînes qui sont complètement distinctes. Les lycéens le savent. Il y a d'un côté le préfet, qui est le représentant de l'État, qui est le représentant du gouvernement et qui représente l'autorité administrative. Et de l'autre côté, vous avez l'autorité judiciaire avec la présidente du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Et ce sont deux chaînes qui sont indépendantes. C'est ce qu'on appelle l'indépendance de la justice. Et cette indépendance de la justice, justice, eh bien, c'est un gage de démocratie. Cette séparation des pouvoirs, c'est un pilier extrêmement important de notre modèle démocratique. Donc nous entretenons des relations avec la justice. Naturellement, je suis en contact avec le procureur de la République, avec la présidente du tribunal judiciaire. Nous essayons le plus possible d'agir de concert, mais en respectant le rôle et le pouvoir de chacun, et surtout en respectant l'indépendance de la justice. C'est très important, je vous l'ai dit.
Quel est le rôle d'une préfecture dans un département ?
Le rôle d'une préfecture dans un département, on va dire, de façon très schématique et très simple, retenez trois grands piliers. Préfecture, c'est trois choses. D'une part, c'est la représentation de l'État sur le département. D'autre part, c'est la relation avec les élus. Et enfin, le troisième pilier, c'est la relation avec les administrés. La représentation de l'État dans le département, c'est le rôle du préfet qui représente l'État, qui est le garant de l'ordre public, mais qui est aussi le garant de la légalité et du contrôle de l'égalité des actes qui sont pris par l'ensemble des collectivités dans le département. Le deuxième grand pilier, c'est leur relation avec les administrés. Et bien souvent, c'est le tout petit bout de la lorgnette par lequel certains connaissent la préfecture. Ils se souviennent que jadis, on allait à la préfecture chercher son permis de conduire ou sa carte grise. Mais effectivement, cette relation avec les administrés, ces missions qu'on appelle administratives, font partie des grands pouvoirs de la préfecture, même si au fil des années, l'État se réorganise et concentre un certain nombre de ses missions de relation avec les usagers dans des centres d'expertise, qui sont généralement des centres d'expertise supradépartementaux qui couvrent le territoire de plusieurs départements. Et puis le troisième grand pilier, eh bien, c'est la relation avec les élus et avec les collectivités locales, que sont naturellement les maires, les conseils départementaux, mais également tous les établissements publics de coopération intercommunale que sont les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Et donc le rôle de la préfecture tourné vers les élus et les collectivités, c'est à la fois un rôle de conseil et un rôle de contrôle. Naturellement, on assiste les élus dans le montage de leur politique publique, dans le montage de leurs projets, mais également le préfet et la préfecture en contrôle la légalité et la conformité avec la loi. Donc voilà pour vous, de façon très schématisée, les trois grands rôles de la préfecture, l'incarnation de l'État, le rôle tourné vers les administrés et le rôle tourné vers les élus.
Et bah c'est très clair, merci.
À l'heure des grandes régions, à quoi servent les départements ?
Alors, le rôle des régions et des départements sont différents. Déjà, conseils départementaux et conseils régionaux n'ont pas les mêmes compétences. Mais là, on parle de collectivités locales et on ne parle pas d'organisation de l'État. L'organisation de l'État est telle que c'est le préfet de département qui est le représentant de l'État dans son département. Le préfet de région, il est également le représentant de l'État dans le département chef-lieu de région. Donc pour nous, l'échelon du département, dans l'organisation de l'État, c'est un échelon qui est un échelon extrêmement opérationnel. Voilà. La gestion de crise, elle est pilotée par le préfet de département. L'ordre public, c'est le préfet de département qui en est garant. La légalité, c'est le préfet de département qui en est garant. L'échelon régional chez nous, et on n'a pas que l'échelon régional, on a aussi un échelon zonal. L'échelon régional et l'échelon zonal sont plus des échelons de gestion des moyens et de coordination des politiques publiques qui nécessitent une vision plus large que la vision départementale, notamment sur les très grandes infrastructures qui irriguent le territoire national et qui dépassent le cadre départemental. Vous voyez que région et département, du point de vue de l'État, n'ont pas le même rôle. Le département est un rôle très opérationnel de contact, de représentation sur le terrain. Le niveau régional, préfecture de région, c'est plus un pilotage des politiques publiques au niveau plus large et un pilotage des moyens, indépendamment des collectivités qui, elles, ont chacune leur niveau de compétence, celle pour le conseil départemental et celle pour le conseil régional.
Donc dans cette deuxième partie, nous voulions parler un peu de sécurité routière, car comme vous le savez, nous organisons au lycée une journée de sensibilisation aux risques routiers, donc le 14 avril à destination donc, des élèves de terminale. Nous voulions savoir comment ont évolué le nombre d'accidents et de morts sur la route.
Alors, avant de répondre à votre question, je vous remercie Je vous remercie très sincèrement d'organiser cette journée de prévention du 14 avril à destination de vos collègues lycéens, parce que c'est extrêmement important de pouvoir sensibiliser toutes les populations et notamment les jeunes, puisque c'est quand on apprend à conduire que les bons réflexes de sécurité routière et que cette culture de la sécurité routière que vous contribuez à diffuser par l'organisation de cette journée du 14 avril commence. Alors, pour répondre à votre question sur l'évolution de la mortalité, c'est bien cela votre question?
Oui, de la mortalité et du nombre d'accidents.
L'évolution de la mortalité, il faut savoir qu'on a en France une évolution qui est sur le long terme globalement positive. Il faut savoir que dans les années 70, il y avait environ 16 000 décès routiers par an et que dans la décennie 2010, en moyenne, nous avions 3500 décès par an. Vous voyez, on est passé de 16 000 à 3500 au niveau national des années 70 à la décennie 2010. Donc on est sur cette évolution positive de la mortalité routière. Je parle d'évolution positive avec beaucoup de guillemets, parce que chaque mort est un mort de trop et on ne pourra jamais se satisfaire d'un quelconque niveau d'accidentalité, aussi bas soit-il. Chaque mort est un mort de trop, chaque accident est un accident de trop. Comment est-ce qu'on a réussi à faire évoluer ces chiffres de la sécurité routière de 16 000 morts par an à 3500 morts par an? Eh bien, en agissant sur trois grands piliers. Le premier pilier sur lequel on peut agir, c'est la sécurité des automobiles. Ce sont les progrès technologiques. Et c'est toute la sécurité active et la sécurité passive qui est embarquée à bord des véhicules. Et donc là, ce sont les constructeurs automobiles, c'est la recherche, le développement, les ingénieurs automobiles qui contribuent à augmenter le niveau de sécurité des véhicules. Et en augmentant le niveau de sécurité des véhicules, on réduit l'accidentologie et on réduit le nombre de morts. Vous voyez, il y a eu un certain nombre d'avancées. La ceinture de sécurité, pour vous, pour votre génération, la ceinture de sécurité, c'est une évidence. Mais la génération de vos parents ont vu arriver la ceinture de sécurité. Le progrès technique des airbags, qui pour votre génération est aussi une évidence absolue. La génération de vos parents ont également vu arriver ces progrès technologiques qui ont permis des progrès dans la sécurité. Donc ça, c'est le premier grand pilier, c'est les progrès technologiques de l'industrie automobile et des véhicules. Le deuxième grand pilier qui nous permet aussi d'améliorer la sécurité routière, c'est la sécurité des infrastructures routières. C'est la sécurité des routes, des autoroutes, c'est leur conception en largeur, en termes de dangerosité des courbes, en termes de dangerosité des accès. C'est aussi l'aménagement des carrefours, pour que les carrefours soient les moins dangereux possibles. Ce sont les aménagements des passages à niveau, avec les intersections, avec les voies ferrées. Et donc avoir ce regard global sur l'investissement de l'État dans les infrastructures routières permet également, par des infrastructures qui sont adaptées, qui sont visibles, qui sont suffisamment larges, qui permettent aux conducteurs d'anticiper, permet aussi d'améliorer la sécurité routière. Et le troisième et dernier grand pilier sur lequel on agit, après le progrès technologique et les infrastructures, c'est naturellement le comportement des automobilistes. Voilà, c'est l'éducation routière. C'est un certain nombre de respect, de règles de sécurité, de respect du code de la route, mais aussi de bon comportement. Au-delà du strict respect des règles, c'est aussi le bon comportement, le respect de l'autre, le respect des autres usagers de la route, qui fait également progresser la sécurité routière. Et donc voilà, c'est ces trois grands axes d'effort qu'il faut avoir à l'esprit si on veut agir utilement sur la sécurité routière.
Quelle importance accordez-vous à la prévention et à la sensibilisation aux risques routiers dans vos politiques de sécurité?
Alors, j'y ai en partie répondu. Naturellement, on y accorde une grande importance. C'est mené au niveau national par la délégation interministérielle à la sécurité routière et on s'en fait le relais sur le terrain dans tous les départements de France. Dans notre département, on a confié à la DDT, à la direction départementale des territoires et à sa cellule sécurité routière, cette mission sous mon autorité de coordonner la prévention, de proposer des actions de prévention vers les différents publics et sur différents risques routiers, en ciblant les jeunes, en ciblant les deux-roues motorisées, en ciblant la lutte contre les addictions. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on lutte contre les addictions, notamment l'alcool, la drogue, eh bien, on permet également d'améliorer la sécurité routière. Donc, je vous l'ai dit, pour nous, on considère que le comportement sur la route, le respect des règles, c'est fondamental, mais aussi le respect de l'autre et le respect d'autrui et des autres automobilistes est fondamental. Et donc les actions de sensibilisation et de prévention qui sont menées chaque année, tout au long de l'année, avec un certain nombre de partenaires, notamment des partenaires associatifs ou parfois des partenaires établissements scolaires qui proposent des actions de sensibilisation de leur public et que nous accompagnons de deux façons. Qu'on accompagne d'une part financièrement, en finançant ces actions, mais qu'on accompagne aussi en termes d'organisation, de pédagogie, qu'on accompagne en termes techniques, par le savoir de nos agents préventionnistes en sécurité routière, par le savoir des intervenants départementaux en sécurité routière qui accompagnent ces porteurs de projets.
Eh ben, un grand merci à vous, monsieur de Balingen, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir œuvré au bon déroulement de cette journée.
Merci à vous, au revoir.
Donc toujours dans le cadre de notre journée de sensibilisation à la sécurité routière, nous recevons aujourd'hui François Duvernet. Donc bonjour Monsieur Duvernet, pouvez-vous vous présenter ?
Oui, bonjour, je suis François Duvernet, donc je suis le chef du bureau de la réglementation de la circulation à la DDT et également coordinateur sécurité routière.
Donc cette interview sera divisée en deux parties, donc une première partie plutôt axée sur votre métier et une seconde sur la sécurité routière. Donc pouvez-vous nous exposer votre parcours scolaire jusqu'aux fonctions que vous occupez actuellement ?
Alors en fait, j'étais lycéen ici au lycée Raoul Follerot. J'ai passé un bac, le bac B, économie, qui n'existe plus maintenant. Et puis ensuite, je suis parti très rapidement sur la sécurité routière parce que j'étais moniteur auto-école pendant 2 ans et demi. Et puis, grâce au bac, j'ai pu passer le concours d'inspecteur du permis de conduire. Donc, je suis rentré dans l'administration et j'ai fait 25 ans de permis de conduire. Et puis, donc, il y a 4 ans... j'ai eu l'opportunité de devenir chef du bureau de la réglementation et donc coordinateur sécurité routière.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et quelles sont vos missions ?
Alors, la plus grosse partie du métier, c'est surtout la coordination de la sécurité routière. Alors, ça consiste dans le département. Il y a un plan départemental d'action de sécurité routière. Je suis chargé de mettre en place, de coordonner ce plan. Alors il y a des associations qui travaillent pour la sécurité routière. Par exemple, il y en a une qui s'appelle la prévention routière, qui est bien connue. Et puis des associations qui viennent dans les écoles. Donc on est chargé de coordonner toutes ces actions. Et puis nous, on appelle ça en régie, c'est-à-dire moi... je peux également faire des actions. Là, c'est par exemple quand vous nous avez contacté pour votre journée du 14 avril. En fait, ça fait partie de nos missions de venir faire des ateliers. Alors, on a le test choc, on a le bar pédagogique qu'on retrouve sur les actions, plus un atelier sur les trottinettes, ce qu'on appelle EDPM. Les engins de déplacement motorisés personnels. Donc tout ça, ça fait qu'on fait au total, par exemple en 2021, on a fait une cinquantaine d'actions, les associations plus nous. Et puis donc on a un budget et on aide au financement les associations pour qu'elles puissent faire des actions de sécurité routière à l'encontre des jeunes, des seniors, etc. Donc par exemple, le plan départemental d'action de sécurité routière pour la Nièvre, on a 5 enjeux sur lesquels on doit travailler. le risque routier professionnel, les substances psychoactives, les jeunes, les seniors et les deux-roues motorisées. Donc quand vous êtes venus nous voir toutes les deux pour votre action, en fait, vous avez coché plusieurs cases de nos enjeux. Donc les substances psychoactives, l'alcool, les drogues, les médicaments, les deux-roues motorisées et puis les jeunes également. Donc ça rentre dans notre champ d'action et du coup, on a répondu présent.
Et donc, vous y avez peut-être déjà un petit peu répondu, mais quels moyens pouvez-vous mettre en place pour les accomplir, du coup, ces missions ?
Eh bien, donc, nous, on a nos ateliers, on va dire, hein, le test choc, le bar pédagogique. Et puis, on utilise... alors, il y a toutes les associations qui travaillent également pour la sécurité routière. Alors, on a également un simulateur de conduite moto et un simulateur de conduite voiture. Et puis les associations, en fait chaque association a des idées, a des façons de fonctionner, ce qui fait que dans la Nièvre les associations, il y en a qui ont des idées assez intéressantes. Par exemple, il y en a une qui organise sur 2 jours dans des communes différentes plein d'ateliers, il y a une 20aine d'ateliers. On se met sur un parking et puis tous les collèges et les lycées du coin viennent pendant ces 2 jours sur tous les ateliers. Voilà, donc c'est multiple en fait. Il y a beaucoup de façons d'intervenir dans les écoles, d'intervenir auprès du public. Par exemple, on est présent à la foire de Nevers aussi. Pendant les 9 jours de la foire, on a un stand de sécurité routière. Et puis, on parle de sécurité routière. La sécurité routière, en fait, c'est aussi échanger avec les gens. Leur expliquer un petit peu ce que je vais vous dire là pendant l'interview, expliquer ce que c'est qu'un accident, comment il intervient, le nombre d'accidents qu'il y a dans la Nièvre, etc. Quoi.
Très bien, merci.
Pourquoi est-il important selon vous de faire de la prévention sécurité routière ?
Bien, alors ce qui est important, c'est que dès le plus jeune âge, alors on appelle ça le continuum éducatif, dès le plus jeune âge, il faut intervenir, parce que vous savez que dans l'éducation, en fait, l'éducation, elle se fait très tôt. Hein, un enfant, si on arrive avec quelqu'un qui a 25 ans, puis qu'on lui dit qu'il faut faire attention sur la route, toute son éducation, elle a été faite et c'est déjà trop tard. Donc en fait, au niveau national, il y a un plan qui s'appelle le continuum éducatif, dès l'école primaire. On parle de sécurité routière et puis c'est inscrit dans le cursus des jeunes. Donc par exemple en primaire, c'est le permis piéton. Ensuite en secondaire, vous avez en cinquième, c'est l'ASSR, attestation scolaire de sécurité, que vous devez vous souvenir que vous l'avez passé. Alors il y a la 1 et puis il y a la 2 également qui se fait en troisième. Ensuite, une fois qu'on a passé ça, on commence après à éventuellement conduire. Vous avez le permis AM. Alors, les ASSR sont nécessaires pour passer les permis. Ensuite, donc, vous passez votre permis. Alors, il y a la conduite accompagnée aussi. Et puis après, une fois qu'on a commencé à conduire, il y a aussi, on essaye de refaire des stages aux gens qui ont déjà le permis. Et puis des impliqués dans la sécurité routière. Donc, ça, c'est très important parce que si vous faites ça, en fait, quand vous arrivez, vous l'avez vécu, hein, vous avez déjà fait le permis piéton, les ASSR, en fait, vous avez déjà entendu parler de sécurité routière. Et puis, quand vous arrivez et que vous conduisez votre voiture, vous savez, vous avez les informations.
Les chiffres d'accidents et de mortalité sur les routes dans la Nièvre sont-ils en augmentation ou en baisse ? Et quelles sont, selon vous, les causes de cette variation ?
Alors, depuis pas mal d'années, les chiffres sont stables dans la Nièvre. Alors, si on remonte à très loin, par exemple, en 1987, c'est une statistique qu'on a parce qu'on la prend en référence, il y avait 87 morts sur le département. Actuellement, depuis quelques années, on tourne autour de 24 tués par an sur les routes. Donc ça a bien baissé. Mais par contre, depuis quelques années, on est sur un plateau. Alors il y a eu des baisses là en 2019 et en 2020 parce qu'il y a eu le confinement. Mais par contre, en 2021, on est remonté à notre plateau de 24 tués par an sur les routes.
Quelles sont les causes principales d'accidents de la route chez les jeunes ?
Alors, chez les jeunes, donc c'est un petit peu la même chose que pour l'ensemble de la population. Il y a la cause alcool qu'on retrouve souvent, la vitesse excessive également, et puis on retrouve également l'inattention. Alors l'inattention, ça peut être, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant l'accident, on n'a pas d'explication. On a des informations sur le téléphone portable qui est beaucoup utilisé pendant la conduite. Il y a eu une enquête là, il n'y a pas longtemps, 80% des personnes signalaient qu'ils utilisaient leur téléphone portable en roulant. Si on doit retenir, c'est les principales causes, c'est l'alcool, la vitesse et puis l'inattention.
Est-ce que les jeunes sont plus touchés par les accidents de la route ?
Alors, en pourcentage, oui. Pardon. En pourcentage, oui. Ils représentent à peu près 12 à 14% des véhicules sur la route. Et ils représentent environ 25% des tués. Donc, vous voyez qu'ils sont moins nombreux sur les routes, mais ils sont plus impliqués dans les accidents. Donc, la tendance est à la baisse depuis pas mal d'années. Mais c'est toujours trop important. Puis quand on parle de pourcentage, c'est une chose. Après, un tué, c'est déjà un tué de trop. Parce qu'on sait qu'ils peuvent tous être évités la plupart du temps. C'est, comme je vous disais, il y a de l'alcool, il y a non-port de la ceinture, il y a la vitesse excessive et puis du non-respect de la réglementation. En fait, si vous prenez... je parle pour l'ensemble de la population... Si tout le monde respectait le code de la route, les limitations de vitesse, ne roulait pas avec de l'alcool, et puis mettait sa ceinture, et respectait bien les limitations de vitesse, il n'y aurait pas de tués sur les routes, ou très peu.
Eh bien, merci à vous, Monsieur Duvernet, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'œuvrer au bon déroulement de cette journée. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt sur BAC FM.